Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Je vous retrouve dans nos Lectures en liberté pour la suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Pour que Michael Cimino me repère tout de suite, je m'étais muni du livre de Jean-François Lyotard sur Malraux, que je tenais bien droit, à hauteur de ma poitrine, comme si je cherchais à en faire la réclame, ce qui, je le voyais bien, ajoutait à la bizarrerie de mon attitude, ainsi qu'aux soupçons de la gardienne qui semblait de plus en plus nerveuse. Je me suis rendu compte alors, cela faisait presque une heure que j'attendais, que je ne savais pas à quoi ressemblait Michael Cimino aujourd'hui. J'avais son visage en tête, mais sans doute ce visage était-il celui qu'il avait du temps de Heaven's Gate, du temps de sa gloire, laquelle remontait à plus de 30 ans. Chaque fois que je me retournais vers l'entrée, je m'attendais à voir surgir ce Michael Cimino aux joues rondes d'il y a 30 ans, avec un chapeau de cow-boy et des Ray-Ban dont j'avais partout vu l'image à l'époque. Mais j'avais confiance. Confiance en qui ? En Cimino, en moi. Je souriais en fixant le visage du cavalier polonais. Lui aussi paraissait avoir confiance. Et malgré le ciel d'apocalypse qui pesait sur lui comme une menace, malgré les ténèbres qui semblaient vouloir absorber les couleurs chaudes rouges et brunes dont il était drapé, on sentait, dans le geste du cavalier, dans la rêverie qui lui donnait une forme de noblesse, une attente qui était plus forte que la ruine. On pressentait que ce crépuscule dans lequel il s'était immobilisé avec son cheval n'était que le prélude à quelque chose qui, pour l'instant, demeurait silencieux, mais qui changerait tout. Le cavalier polonais de Rembrandt veillait sur une nouvelle époque, sur un silence nouveau. Il arrive un moment où l'absurdité de la situation vous apparaît comme un triomphe, comme une sorte de chef-d'œuvre. Elle se suffit et à elle-même. Et en l'occurrence, l'espoir qui m'animait était si excessif. Il y avait aussi la fatigue du voyage. Si excessif que j'en étais maintenant arrivé face au cavalier polonais de Rembrandt, à oublier toute inquiétude, à oublier l'objet même de ma présence, à oublier que j'attendais Michael Cimino. J'avais rangé le livre de Lyotard sur Malraux dans ma poche et m'étais assis sur la banquette en velours face au tableau. Je me sentais bien ici, seul, à New York. La lumière de l'après-midi entrait par une des fenêtres, elle était douce. Avec elle, avec ses rayons printaniers, les couleurs sombres du cavalier polonais prenaient un éclat paisible. Et en veillant à ce que la gardienne ne me voie pas, mais depuis que je m'étais assis sur la banquette, elle avait cessé de me soupçonner, j'ai sorti de ma poche la flasque de vodka achetée au duty-free de Roissy-Charles de Gaulle pour supporter le voyage en avion. Et à petite goulée, tout en glissant dans une agréable torpeur, j'ai fini la bouteille. Sans doute m'étais-je endormi. La gardienne était à mes côtés. Elle me secouait l'épaule tout en parlant dans un talkie-walkie. « It's closed !» répétait-elle. Dehors, le ciel était rose. Et la grande masse des feuillages de Central Park étincelait comme un buisson de flammes douces. Je respirais l'odeur de la glycine, celle du chèvrefeuille qui grimpait le long de la grande porte du musée, et tous les pétales qui voletaient comme des petites syllabes jaunes et mauves dans l'air poussiéreux et saturé de New York. J'ai allumé une cigarette et je me suis assis sur les marches de la Frick Collection. Mon vol décollait un peu avant minuit, il était 17h30. J'avais du temps devant moi, peut-être irais-je me mettre sur un banc là-bas dans Central Park et regarder un peu les arbres, le ciel et les jeunes femmes dont les robes légères appelaient d'autres désirs que ceux qui depuis des mois encombraient ma tête. Des désirs plus clairs, plus glissants. Des désirs qui se multiplient. Quelle était donc cette phrase de Fitzgerald à propos de New York dans The Great Gatsby ? Ah oui. L'île antique qui a fleuri autrefois aux yeux des marins hollandais, le sein vert et frais d'un monde nouveau. Moi aussi, je me sentais vert et frais. J'avais traversé l'océan et voilà, j'étais réveillé. Une femme était assise sur une des marches et observait les visiteurs qui sortaient du musée. Elle était entourée de sachets de livres de chez Strand, portait des lunettes noires et une casquette sur laquelle était écrit « Fuck » et fumait cigarette sur cigarette en tapotant sur une tablette iPad. Elle a remarqué que moi aussi je traînais des sachets de livres de chez Strand et on s'est souri. C'est drôle. Je n'étais même pas déçu. Michael Cimino n'était pas venu, mais au fond, c'était logique. N'était-il pas devenu une sorte de fantôme ? Comme le cavalier polonais. Il vivait le long d'une ligne de crépuscule, cette ligne à partir de laquelle on perçoit l'origine et la fin des choses, et qui procure à celui qui parvient à la serrer de près une lucidité effrayante, mais aussi l'innocence que tout le monde aujourd'hui a perdue. Je repensais à notre conversation téléphonique. Ne l'avais-je pas rêvé ? Il y a parfois dans nos têtes des figures vides qui se remplissent de signes lorsque nous en avons besoin. Ils sont comme des spectres invités dans nos phrases qui nous viennent en aide. J'ai allumé une autre cigarette. J'avais envie d'une vodka. J'ai fermé les yeux. J'étais arrivé ce matin très tôt, vers 6h. Dans l'avion, je n'avais pas dormi et toute la journée, en attendant le rendez-vous avec Michael Cimino, j'avais arpenté la ville en remontant Manhattan depuis le pont de Brooklyn. Je m'étais arrêté chez Strand. Et moi aussi, comme cette femme, j'avais acheté des tas de livres que je traînais à présent avec moi. J'allais continuer quelques heures à arpenter la ville, puis j'irais m'allonger sur le fauteuil d'une salle d'attente de Kennedy Airport jusqu'au départ de l'avion avec mes sacs de livres. Voilà. J'étais venu à New York voir un tableau de Rembrandt et acheter des livres. C'est ça que j'aurais dû répondre ce matin aux fonctionnaires de l'immigration à Kennedy Airport lorsqu'ils m'avaient demandé pourquoi je venais aux États-Unis. Voir un tableau, acheter des livres. Au lieu de quoi j'avais marmonné « To speak with somebody » pour parler à quelqu'un. Le type avait relevé la tête et m'avait dévisagé curieusement comme si ma phrase devait déclencher une procédure spéciale. « Who exactly ?» Je n'avais pas bien compris la question. Il avait dû la répéter plusieurs fois. Et bien sûr, le fait de faire répéter le fonctionnaire de l'immigration commençait à transformer cette simple formalité en incident. Bref, lorsque j'eus enfin compris qu'il voulait connaître le nom de celui avec qui je venais parler à New York, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, comme Bartleby, le personnage de Melville, « I would prefer not do ». Le type ne comprenait pas. « What ?» disait-il. et j'ai dû à mon tour répéter plusieurs fois ma phrase jusqu'à ce qu'il la comprenne. Et sans doute l'a-t-il interprétée comme une insolence, parce que d'un geste il a fait signe aux policiers qui patientaient de l'autre côté de la ligne et qui ont accouru. Il était évident qu'à la question « Quel est le motif de votre voyage ?», j'aurais dû répondre quelque chose comme « Affaires » ou « Tourisme ». Ils ont sorti de mon sac la bouteille de vodka qu'ils ont examinée avec répugnance, puis le scénario de « The Great Mailville » qui était relié et que j'avais imprimé en rouge. Manifestement, cette couleur les inquiétait. L'un des flics m'a demandé de quoi ça parlait. Un scénario, j'ai dit, un scénario sur Melville, l'auteur de Moby Dick. J'ai précisé de manière absurde que Melville avait justement travaillé à la douane de New York et que, en quelque sorte, il était leur collègue. J'allais partir lorsque la femme à la casquette « Fuck » s'est approchée de moi. Elle m'a demandé si ce n'était pas avec elle que j'avais rendez-vous. J'ai dit que non. J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui n'était pas venu. Je l'avais attendu plusieurs heures et maintenant j'allais prendre l'avion. Alors la femme m'a tendu la main en souriant et m'a dit en français qu'elle était absolument désolée. Elle était très en retard à cause d'un autre rendez-vous et quand elle était arrivée il y a une demi-heure, ils ne l'avaient pas laissée entrer parce qu'ils allaient fermer. Je ne comprenais pas. Alors elle m'a demandé comment allait le cavalier polonais aujourd'hui. Nous avons souri et j'ai sorti le livre de Jean-François Lyotard sur Malraux. Je le lui ai tendu. Moi aussi, j'ai des livres pour vous, m'a dit Simino. Et nous nous sommes dirigés vers Central Park. Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne, et à la rencontre avec Michael Cimino. L'air était doux, léger, et nous ne cessions de sourire. Il y avait des éclats bleus dans les feuillages des ormes, mais quelque chose d'autre encore semblait briller d'arbre en arbre. Une vérité qui n'appartenait pas seulement au printemps, une sorte de lueur qui, tout en paraissant fragile et incertaine, enchantait le cœur des enfants dans les allées et celui des couples allongés sur l'herbe. Cette lueur effaçait peu à peu les ombres. Et comme le sein vert et frais d'un monde nouveau dont parlait Fitzgerald, elle semblait capable d'effacer le néant, de vaincre les horreurs et d'emporter cette fin d'après-midi vers la joie des instants parfaits. On a marché longtemps, jusqu'au bord de l'Hudson. Cimino m'a indiqué un banc où nous nous sommes assis. Il a sorti une flasque de vodka que nous avons bu par petites goulées en fumant des cigarettes, nous parlions. Le soir tombait, rose, rouge, bleuté, avec un peu de vent qui faisait tournoyer les mouettes. Cimino m'a montré les livres qu'il avait achetés chez Strand, et je lui ai montré les miens. Les livres passaient d'une main à l'autre, et nous rions de reconnaître des livres que nous aimions ou d'autres que nous avions toujours voulu lire. Alors nous avons fait des échanges, et à la fin, Cimino m'a offert un livre qui était à part, emballé dans un papier cadeau. Je devais l'ouvrir plus tard, lorsque je serai rentré en France. On a regardé au loin là-bas la statue de la liberté, et j'ai rappelé à Cimino que dans l'Amérique de Kafka, lorsque Karl Rossmann arrive en bateau depuis l'Europe, il voit la statue brandir à la place du flambeau une épée, celle qui lui coupera sans cesse la route, celle qui voudra sa mort. Cimino m'a dit « Karl Rossmann, c'est moi ». Puis nous avons tranquillement vidé la flasque de vodka en regardant plus loin, là-bas, l'île d'Ellis Island, où pour chacun de nous, tout commence et tout finit. Sabbat. 5 mois plus tard, j'ai reçu un SMS de Pointel. On était le 23 septembre. Je m'en souviens avec précision parce que ce jour-là, c'est mon anniversaire. J'étais en train de fêter l'événement comme il se doit en sifflant un pack de bière au lit devant Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola. Lorsque, sur mon téléphone, le message est apparu. Depuis mon retour de New York, j'avais la certitude de détenir quelque chose, une chose absolument cruciale, une chose terrible. Peut-être n'existait-elle qu'à peine, peut-être même n'avait-elle pas de nom. Mais cette chose ne cessait de me sauter au visage. Et comme une bête rugissante que l'effroi a longtemps muselée au fond de sa grotte, elle surgissait des ténèbres et dévoilait ses mâchoires chaque fois que je regardais un film. Oui, j'étais assez fou pour croire qu'un secret circule à travers des films. Assez fou pour imaginer qu'il soit possible d'y accéder, et même d'en recevoir des lumières. Ce secret, je l'avais cherché à travers les films de Michael Cimino, et voici que la recherche s'élargissait encore. Car la vérité est comme le corps immense des déesses. Elle est là et pas là. On la voit et on ne la voit pas. Moi, je la voyais. Était-ce cette voie lactée où scintillent des lueurs d'or ? Ou ce trou puant où roulent des crânes verts. En suivant Melville à travers le monde, en chassant avec lui non seulement une baleine qui avait pris la place de Dieu, mais aussi un flot d'ombre et d'horreur et des clartés d'adoration, et la joie du labyrinthe et l'engloutissement dans l'abîme, et les yeux rouges du crime et la possibilité orageuse et sereine de l'amour, j'avais découvert qu'une étincelle s'allume au cœur de la destruction comme un cristal arctique, et que cette étincelle suffit pour mettre le feu au monde. Ce feu est blanc, croyez-moi. Il est le contraire du ravage. Nous y brûlons sans être consumés. Et ne riez pas, c'est exactement ce que je vois, un incendie immaculé. C'est pourquoi je ne faisais plus que ça, regarder des films. J'avais passé tout l'été à voir 3-4 films par jour, allongés sur mon divan-lit, face au grand écran plat que mon voisin de palier, Tot, avait dégoté sur eBay. Il trouvait que c'était une hérésie de regarder des films sur un ordinateur, comme j'en avais pris l'habitude depuis des années. Et en échange du grand écran dont il m'avait offert la jouissance, je lui gardais son dalmatien lorsqu'il était en déplacement. Tot était joueur de poker. Il lui arrivait de partir à l'improviste pour un tournoi au bout du monde, sans préciser la date de son retour. Ainsi avais-je très souvent la garde de son chien dont j'appréciais la silhouette gracile et l'enjouement presque enfantin. Au début, le dalmatien, qui s'appelle Sabat, demeurait dans l'appartement de Tot, et je me contentais de le sortir 3 fois par jour dans le jardin de la cour intérieure, comme Tot me l'avait indiqué. Je profitais de ces 3 visites à Sabat pour le nourrir selon les prescriptions que Tot avait épinglées en lettres majuscules sur le frigo. Le matin, remplir la gamelle grise d'eau claire, la gamelle rouge de croquettes bio spécial régime et la gamelle bleue d'une livre de viande rouge coupée en dés, que chaque soir je sortais du congélateur pour le lendemain et déposais recouverte de papier aluminium dans l'évier. Le soir, remplir les gamelles rouges et bleues de granulés diète canine et offrir à Sabat une friandise à la viande de bœuf séchée. En général, je visionnais mon premier film vers midi, puis un deuxième vers 14h, et après avoir vaqué à mes occupations, c'est-à-dire être allé me ravitailler en bière et en vodka chez Franprix, puis en cigarette au tabac de la rue Pelleport, je lançais un 3e film dans la soirée, souvent plus long, esthétiquement plus ambitieux. Un de ces films qui supposent qu'on pense avec eux, c'est-à-dire qu'on mette à l'épreuve notre pensée et que celle-ci accepte de se modifier, un de ces films qui attendent qu'on se rende disponible au feu éventuel qui les consume et que soi-même on prenne éventuellement feu, un film qui répondait à ma recherche et dont les flammes m'apportaient des lueurs. Pour que j'arrive à m'orienter dans la forêt de tous les films, il fallait qu'à un moment ou un autre surgisse le daim blanc. Pas lui personnellement, ni aucune silhouette d'animal fuyant à travers les bois, mais l'événement qu'une telle fuite annonce. Une voix du sacrifice qui traverse les époques et dévoile la trame sous les apparences. Et bien sûr, le daim ne surgit pas sur commande. Il ne galope pas dans n'importe quel film, même s'il est séduisant de le croire. En un sens, rien n'est plus rare que son apparition. C'est pourquoi je la guette aussi intensément. C'est pourquoi j'y consacre tout mon temps. Je ne veux pas rater l'épiphanie du daim blanc de la vérité. Je visionnais ainsi cet été-là des dizaines et des dizaines de films. Et parmi eux des dizaines et des dizaines de mauvais films, parfois même des navets, sans rien croiser qui ressemblât au reflet de mon daim. Mais il suffisait d'un détail, 3 secondes d'un miroitement, l'écho d'une voix perdue dans le désert, une trace de sang sur le bord d'un trottoir ou l'émail épiphanique d'un lavabo au milieu d'un thriller, pour que s'accomplisse ce que j'attendais. Ce que je souhaitais plus que tout, cette chose que mon désir, à chaque instant, était sur le point d'inventer un signe, une annonce. Vers 1h ou 2 du matin, j'enchaînais enfin avec une dernière séance, parfois le même film, dont je notais alors les dialogues que j'avais aimés, dans un cahier spécial. Je reparlerai de ce cahier. Depuis ma rencontre avec Michael Cimino, j'avais laissé reposer The Great Mailville et ce cahier, en quelque sorte, le remplaçait. Oui, les phrases de The Great Mailville, celles que j'avais imprimées en rouge, celles qui avaient passé la douane de New York et que Michael Cimino avait lues intégralement de la première à la dernière, en ponctuant sa lecture de grognements de satisfaction, en m'indiquant d'un bout de l'index les scènes qui lui plaisaient, ces phrases avaient besoin que je leur laisse à présent cette liberté qui est leur horizon et vers laquelle chacun d'elles tend comme un animal impatient. Je me souviens que dans « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry, un troupeau de chevaux sauvages, de belles pouliches aux robes lustrées, ne cesse de galoper au gré d'une lumière aux nuances violettes qui éblouit les cimes de la Sierra Madre. Les déplacements de ce troupeau à travers le livre y inventent une prairie toujours plus lointaine, creusée par un désir sans fin. Et c'est peut-être à cette vision furtive et pleine de joie, plutôt qu'à son mescal, que le consul, prisonnier de lui-même, ne cesse de s'abreuver. À mes yeux, les phrases de The Great Mailville étaient semblables au galop ininterrompu des juments de Lowry. Elle suscite le même bonheur écarlate, celui qui nous vient des plus grandes espérances. Ce bonheur éclate lorsque l'horizon se dégage. Notre soif y ouvre un passage. Et même si le galop s'éloigne, même si l'on entend de moins en moins son bruit, sa seule existence constitue une promesse qui continue d'agir sur nos vies. Plutôt que de continuer à réécrire indéfiniment le texte de mon scénario, j'avais trouvé plus judicieux de lui accorder un peu de répit. Peut-être se bonifierait-il de lui-même, peut-être en s'éloignant de moi, trouverait-il de lui-même ce qui le rendait si étrange aux yeux des autres, et parviendrait-il à l'être un peu moins, ou plus du tout, à plaire enfin. Mais je ne me faisais pas d'illusions. Mon scénario était tenace, et même assez têtu, et en vérité je ne souhaitais pas qu'il se modifiât. Céder sur son désir est une manière de consentir, et le consentement n'est-il pas l'ennemi de l'art ? Nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ce roman de Yannick Haenel, « Tiens ferme ta couronne », que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.